Qu'est-ce qu'il faisait bon chez elle? Un des chiens ou un des caniches. On s'entendait à merveille. On se partageait des fois la niche. On se partageait des fois la niche. Le chien était allemand, évident. On vivait tous les deux en attendant le testament. Relat fumé qu'il belloule. Je laissais passer le temps. Pour le match, qu'en me bio. Le chien loup était gagnant. Les arabes, ils sont jaloux. Aïto les gigolos. On aime dit tout à l'eau. Cool she like she and low tampe. Elle est morte la vieille mskina. Ken Henny la maya, on dirait ma mère. Bon, ça a pas marché, passons à autre chose. Mjit le beurre FM, présentez mon dernier disque. Un jour de Aïcha, je t'aime. Mais que je politique, mais que je risque. Mais que je politique, mais que je risque. T'lakit ma chikh Borhan. Il discute, ma fnan. Qu'en y chouflou l'avenir. Squata ou naga l'antenne. Ça fait 30 ans qu'il nous les chauffe. Ces chansons qu'il réchauffe. Y'a que lui sur les ondes. Vec chanteur micro-ondes. Un copain fêtait sa naturalisation. C'était là l'occasion de chanter mes belles chansons. De chanter mes belles chansons. Ça me dérangeait qu'il soit à l'aise. Déjà dans sa nationalité française.
La plus grande partie de nos concitoyens est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés.
What is right and what is wrong?
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Il faut une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre.
Pardon.
Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canu 102.2 FM à Lyon. Radio que vous pouvez également écouter sur internet depuis le site et puis depuis le site que vous voulez d'ailleurs, parce qu'on peut l'écouter de plein d'endroits différents. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que Les Yeux Grands Ouverts, si vous désirez suivre l'actualité de l'émission, Les Yeux Grands Ouverts a une page Facebook, donc il vous suffit d'aller sur le fameux réseau social, de cliquer sur j'aime et toute l'actu des Yeux Grands Ouverts s'affichera dans votre fil d'actualité. Vous aurez ainsi les vidéos qui sont parfois transmises, des petits articles, des liens, ainsi que toutes les infos qui concernent l'émission quelques temps avant que l'émission soit diffusée. Vous aurez aussi les liens du podcast des podcasts qui sont disponibles pour la plupart d'entre eux, même pour l'intégralité d'entre eux, sur le blog de Radio Canu concernant l'émission Les Yeux Grands Ouverts. Donc c'est blog Radio Canu Les Yeux Grands Ouverts. Pour que ce soit plus simple, parce que l'adresse je m'en rappelle jamais par cœur, vous allez sur le site de Radio Canu, vous cliquez sur le planning et vous cliquez sur Les Yeux Grands Ouverts qui se trouve le dimanche de 23h à minuit, et ainsi vous tomberez sur le blog et vous retrouverez tous les podcasts des anciennes émissions qui ont été faites, notamment la série d'émissions sur les médias, sur l'autodéfense intellectuelle, sur la colonisation, sur le néo-métal, etc. etc. Donc voilà pour les petites infos. On a également une boîte mail si jamais vous voulez transmettre des informations ou que vous avez des morceaux de musique à proposer ou peut-être des infos à faire circuler ou tout ce que vous voulez. Donc c'est l'adresse mail de cette boîte, c'est lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, tout au pluriel, les yeux grands ouverts, grand et ouvert avec un S. Et puis je vous rappelle aussi, avant de commencer l'émission, comme cela vous était signalé dans l'émission juste avant moi, La Causerie, que Radio Canu fait un appel aux dons parce que la radio veut pérenniser son activité. Le contexte économique étant de plus en plus compliqué pour tout le monde et pour vous comme pour la radio. Et la radio cherche à acheter des locaux, donc elle lance une campagne de dons pour pouvoir acheter des locaux et éviter de devoir s'acquitter des loyers qui sont de plus en plus chers, surtout sur Lyon. Alors pour envoyer vos dons, vous pouvez les envoyer à Radio Canu, boîte postale 1101, 69 201, Lyon, CEDEX. Voilà pour les petites infos concernant l'émission et le lien qu'elle peut avoir avec vous. Alors depuis deux émissions déjà, il s'agit maintenant de la troisième, nous avons entamé le récit de la Révolution française en s'appuyant plus particulièrement sur un personnage de cette révolution, un personnage clé qui est Maximilien de Robespierre. On essaye de s'attacher au récit, je dirais, large, aux grandes lignes, à ce qui se passe dans les grands espaces, et en même temps en s'attardant un peu sur ce qui se passe pour le petit peuple et en s'attardant aussi et en s'intéressant au cas particulier de ce personnage qui est Maximilien de Robespierre. Alors, avant toute chose, j'aimerais dans un premier temps approfondir quelques éléments qui ont été donnés la semaine dernière, notamment avec des documents qui étaient un petit peu moyens. J'avais des documents audio avec une qualité de son assez catastrophique, tout simplement parce que la conversion au format MP3 qui est nécessaire pour ce genre de truc n'était pas avec le bon échantillonnage, donc ça donnait un son catastrophique. Alors, je vais donc vous donner des petites précisions. On se resitue déjà dans le contexte historique, donc on en était à peu près au 10 août, un petit peu après, mais revenons au 10 août. Grâce à la montée des fédérés marseillais, le palais des Tuileries est pris d'assaut. Le roi est arrêté et envoyé à l'Assemblée nationale dans un premier temps, où il sera démis de ses fonctions de chef de l'exécutif avant d'être envoyé le 13 août à la prison du Temple. Il sera incarcéré sur décision de la commune insurrectionnelle de Paris, qui était en quelque sorte le gouvernement provisoire, puisqu'il n'y avait pas, il n'y avait plus de gouvernement à ce moment-là. On décide de mettre en place, une fois que ce changement de pouvoir s'effectue, on décide de mettre en place ce qu'on appellera une convention pour écrire la constitution de la première république. Alors en fait, c'est tout simplement parce que on ne voulait pas l'appeler constituante 2, puisqu'il y en avait eu une juste 2 ans avant à peine. Et comme on voulait pas donner ce nom, on a cherché un autre nom. Il y avait un américanisme en vogue à l'époque, très très fort, suite aux guerres d'indépendance auxquelles la France avait participé, notamment Lafayette. Et y a un mot anglais qui est venu, qui convention, et les Français ont décidé de l'adapter en français en disant on va faire une convention. Voilà. Alors, les élections ont eu lieu pour la première fois avec le suffrage universel. C'est-à-dire que tous les citoyens votaient, contrairement à ce qui se passait lors de la première constitution de la monarchie parlementaire, où c'était un suffrage censitaire. Mais tout cela arrive dans un contexte très particulier, parce que la France, elle essuie de multiples revers sur le front prusse, elle perd à Verdun, etc. Et donc je vous ai évoqué la semaine dernière ce qu'on a appelé les massacres de septembre, appuyé par un petit document audio de très médiocre qualité, comme je vous disais. Et je vais le compléter aujourd'hui avec un autre document audio, toujours du même historien Henri Guimain, qui parle encore de ces massacres de septembre, mais il l'envisage et il l'appréhende par le point de vue, entre guillemets, pas vraiment son point de vue, mais en s'attachant au rôle de Georges Danton dans ces massacres-là, puisqu'à ce moment-là, Georges Danton est ministre de l'Intérieur. Écoutons ce que Henri Guimain a à nous dire à ce sujet.
Toujours est-il que la frontière est ouverte et que les Uhlans, enfin les lanciers austro-prussiens, vont pouvoir arriver dans les environs de Paris. Danton en est fort effrayé, et quand il voit que les aristocrates qu'on a empilés dans les prisons se réjouissent des nouvelles militaires qui leur annoncent une victoire des austro-prussiens et probablement leur libération, ces aristocrates organisent des fêtes. Ceux qui avaient de l'argent avaient le droit de faire venir dans les prisons ce qu'ils voulaient. Alors on entend dans les prisons de Paris des chansons, des vociférations, des cris de joie, parce que la République va tomber. Alors, Danton comprend parfaitement bien le mouvement qui va se produire du côté de la Commune, de Marat très particulièrement, et je crois pouvoir dire, aujourd'hui on peut laisser entendre, que Marat est à l'origine de ces massacres des prisons. Ce sont des commandos, qui vont sortir de l'Hôtel-de-Ville, enfin de la Commune, pour aller dans les prisons, très organisés, très calmes. Ils se font donner des listes d'écrou, ils examinent très rapidement les cas, et tout aristocrate est immédiatement condamné à mort. Ils iront même jusqu'à condamner à mort des délinquants, enfin des droits communs, parce qu'ils les estiment irrécupérables. Tout ça se produira avec un certain ordre, un certain calme. Les horreurs qui se produiront, qui auront lieu autour du corps de la princesse de Lamballe, n'auront pas d'imitateur. C'est un scandale, c'est une horreur, mais elle a été purement locale. Tout le reste se produit avec une sorte de calme. Et Danton, ministre de la Justice, n'intervient pas. Ce serait son devoir d'intervenir, et Madame Roland dira plus tard dans ses mémoires, Danton a dit, les prisonniers, je m'en fous. Ce n'est pas une phrase certaine, mais c'est une phrase probable. Réfléchissons bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des gens sont là, des prolétaires sont là, qui se disent, les aristocrates poussent des cris de joie. Il est bien possible que ce qui avait été annoncé dans le manifeste de Brunswick, à savoir que Paris sera livré à une entière subversion, il est bien possible que c'est ce qui va se produire. Eh bien, si nous devons être égorgés, nous allons commencer, nous, par nous débarrasser de ceux qui se félicitent de notre égorgement. Alors, on ne va pas laisser derrière nous des aristocrates, on va les liquider. Eh bien, Danton regarde ça avec sympathie en se disant, c'est un exutoire. Ces gens qui se précipitent sur les aristocrates pour les tuer sont beaucoup moins redoutables que s'ils se précipitaient sur les hôtels particuliers pour les piller. Il lui paraît donc assez utile de laisser se développer ce mouvement horrible, ce mouvement d'insurrection, parce que c'est un mouvement calmant.
Voilà pour les petites précisions concernant les massacres de septembre. Alors la qualité du document audio est encore très très mauvaise, mais c'est tout simplement parce que le document qu'a enregistré Henri Guimain est très vieux, et forcément avec toutes les conversions qu'il a dû avoir de format, etc., etc., la qualité est assez moyenne. J'espère qu'on a à peu près distingué ce qu'il disait sur les massacres de septembre. Donc c'est une petite précision sur ce qui s'est exactement passé lors de cet épisode, et qui est certainement l'un des épisodes les plus trash, on dira, de la Révolution. Alors j'en reviens à nos moutons. Les élections ont lieu donc pendant ces massacres de septembre, les élections pour la Convention. C'est un contexte très particulier où il y a énormément de gens qui sortent pas beaucoup de chez eux, parce que dans les rues il se passe des trucs un peu étranges, et il y a même des gens qui sont jugés dans les rues, des petits tribunaux, avant d'être exécutés. Donc il y a seulement 10% de la population qui se déplace pour aller voter. Et en plus, ce qu'il faut en plus préciser, c'est qu'à cette époque, environ 80% de la population française ne sait pas encore lire. C'était une France qui vient à peine de se libérer et de se démocratiser de manière brutale. Donc le peuple n'est pas encore vraiment éduqué et prêt à assumer les responsabilités qu'on lui propose d'assumer en votant. Le résultat de cette élection est tout de même un peu significatif, car même s'il reste une chambre de notables qui sera élue, il y a seulement deux personnes qui sont élues à cette convention qui sont des ouvriers, l'orientation politique est tout de même clairement différente. Les députés montagnards sont majoritaires par rapport aux députés girondins. Seulement au milieu de tout cela, il y a ce qu'on appelle aussi le marais ou la plaine. C'est le ventre mou de la convention, en fait. C'est les centristes de l'époque qui pencheront dans le sens qui va les arranger en fonction des circonstances et en fonction des rapports de force qui seront engagés par les divers partis. Tout d'abord, ce que veulent les députés du Marais, en fait, c'est surtout ne pas prendre de risques pour eux, hein, pour leur situation et pour le droit de la propriété et des petits possédants. Voilà, la politique qui sera menée par cette convention, elle sera donc différente de ce que les gens ont connu auparavant, enfin légèrement en tout cas. Pour gagner le rapport de force avec les Girondins, les montagnards vont s'allier aux revendications des sans-culottes. C'est pour ça qu'on va avoir des réformes qui seront relativement significatives. Mais avant de rentrer plus en détail dans la nature des affrontements qui seront au cœur de cette convention, une petite précision doit également être apportée sur un autre événement qui arrive dans ce même moment, un événement que certains mettent en avant comme le début et l'émergence d'un esprit républicain au sein des troupes qui étaient envoyées au front, les troupes françaises qui étaient envoyées sur le front prussien. C'est la bataille de Valmy. On écoute à nouveau Henri Guimain qui nous parle de la bataille de Valmy et qui casse peut-être un peu, voire même beaucoup, le mythe qu'on a pu en faire et qu'on en fait encore à pas mal d'endroits. Allez, en avant.
Alors, il y aura des négociations secrètes qui vont s'engager avec ce Brunswick dans des dispositions sensibles à l'oral. Mais ce que l'on a appris maintenant, et qui me paraît extrêmement décisif, c'est que Danton a trouvé un argument qui n'est pas négligeable auprès du roi de Prusse. Danton a entre les mains Lebrun, ministre des Affaires étrangères, qui fait ce qu'il veut, et Lebrun envoie divers émissaires, très peu connus, des gens qui ne se font pas remarquer, auprès des hautes sphères prussiennes, pour dire ceci, qui a été dicté par Danton. Attention, vous vous approchez de Paris, le roi est maintenant captif au temple, vous avez vu ce qui s'est passé par les massacres de septembre, j'ai été incapable d'intervenir. Eh bien, je crains beaucoup que si on voit approcher les Uhlans de Paris, malgré tous mes efforts, je ne puisse pas protéger la vie du roi. Là, je vous en prie, ne soyez pas vous, les agresseurs, vous, responsables de la mort du roi, qui est infaillible si vous avancez. Et en effet, le roi de Prusse va être d'accord et on organisera le simulacre de Valmy. Oh, je sais bien que je contrarie beaucoup de gens aujourd'hui, on m'a parlé encore récemment, et pourtant c'est la vérité. Il n'y a pas de bataille de Valmy. Il y a un échange de coups de feu, un échange de coups de canon. Pendant plusieurs heures, l'armée française et la dangereuse armée prussienne, vous savez ce qu'était l'infanterie prussienne telle que Frédéric II l'avait constituée, c'était quelque chose d'extrêmement redoutable. Ces deux armées séparées par environ un kilomètre vont se regarder face à face sans que ni l'une ni l'autre ne bouge. Mais on échangera des coups de canon, de violents tirs de canon, il y aura environ 500 tués des deux côtés, mais il n'y aura jamais de corps à corps. Ni l'armée française ne s'avance, ni l'armée prussienne ne s'avance. Et comme du côté de l'armée française, il y aura ce très beau geste du général Kellermann qui met son chapeau au bout de son épée, qui crie « Vive la nation !» qui est un cri qui va être répété par les volontaires qui sont là. On racontera ensuite que c'est une victoire psychologique remportée sur l'ennemi et que les Prussiens ont été terrifiés par ce cri des volontaires français « Vive la nation !» Jusqu'à Goethe qui dira « Oui, c'est vrai, ce jour-là, l'histoire a changé de sens et le vide de la nation a impressionné toute l'Europe. » Ce n'est pas vrai. En réalité, ce que Danton avait voulu, il l'a obtenu. Pour le bien de la France, il n'y a pas eu de corps à corps à Valmy. Il y a eu un recul des Prussiens le lendemain. Dumouriez va envoyer des dépêches que nous avons aujourd'hui et qui sont de purs mensonges. Disons, je les fais harceler. Aucun Prussien ne repassera la frontière. Ils sont exterminés avant d'avoir rejoint la Prusse. Ils sont si peu exterminés que nous avons les autres dépêches de Dumouriez à ses lieutenants disant faciliter la retraite des Prussiens puisqu'ils ne demandent qu'à se retirer. Les Prussiens, eux, diront, on a été obligés de se retirer parce qu'il y avait la dysenterie et qui ravageait nos troupes. C'est possible. Toujours est-il que le 1er octobre 92, il n'y a plus aucun Prussien sur le sol français. Danton a très bien réussi. Un, il a protégé l'ordre social. Deux, il a protégé la France, son pays, d'une défaite militaire qui eût été inévitable et désastreuse.
Voilà pour les petites précisions concernant la bataille de Valmy. C'est plus que des petites précisions d'ailleurs, puisque c'est carrément une bombe. Henri Guimain nous dit grosso modo que la bataille de Valmy était arrangée à l'avance, qu'il n'y a pas eu réellement d'affrontement, et que en fait la seule chose qui s'est déroulée, c'est qu'il y a eu un petit arrangement avant pour protéger les fesses du roi, et qu'il n'y a pas eu d'affrontement pour que on puisse garantir la sécurité du roi à ce moment-là, car Danton a dit à Brunswick qu'il ne pouvait pas la garantir si jamais il rentrait sur Paris. Voilà ce qui replace tout dans l'ordre et montre à quel point certains dirigeants peuvent être perfides au point de tout manipuler dans certains buts. La Première République commence alors, pour en revenir un peu plus au contexte politique, et la Convention est chargée d'écrire cette nouvelle constitution. Robespierre, au départ de la Première République, va proposer une maxime qui sera adoptée pour représenter la République française. Alors cette maxime, on la connaît tous puisqu'elle existe encore aujourd'hui, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est une proposition de Robespierre. Il y a également au tout début de cette République la création de ce qu'on appelle le calendrier révolutionnaire, et qui est d'ailleurs une belle arnaque pour les ouvriers, qui, au lieu de se reposer tous les 7 jours, comme dans le calendrier grégorien où il y a des dimanches, et ben là il se repose désormais tous les 10 jours, parce que la semaine fait 10 jours au lieu d'en faire 7. Mais un autre sujet fait vivre cette convention, c'est bien entendu le sort qui doit être réservé à l'ancien monarque Louis XVI. Son procès sera... J'ai un peu du mal ce soir, c'est la fatigue. Son procès sera entamé à la Convention. Il lui sera reproché notamment la corruption sur les députés, comme Mirabeau. Danton, qui l'a été aussi, Danton a été aussi acheté, mais personne ne le sait encore à ce moment-là. On retrouvera une lettre signée de sa main demandant à Lafayette de faire tirer sur la foule sur le Champ de Mars le 17 juillet 1791. Dans toutes les preuves qui sont apportées, il y en a tout un paquet. Hein. On découvrira également l'armoire de fer, ce qu'on appelait l'armoire de fer. C'est une pièce cachée dans les Tuileries où des preuves sont trouvées comme quoi le roi achetait des députés, était, disons, plus ou moins ami avec certains ministres, et que en plus de ça, il était de mèche avec les monarques des autres pays avec lesquels il faisait la guerre. Pour préciser un peu, suite à donc ce procès, il y a un vote décidant à une voix près que le roi sera exécuté, et il est donc exécuté le 21 janvier 1793. Il est guillotiné sur la place de la Révolution, qui est aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, la place de la Concorde. En mars, pour ce qui est du contexte politique, on revient un peu dedans. En mars, sur une proposition de Danton aussi, dans les grosses évolutions qui vont se dérouler suite à ce nouveau gouvernement. Donc sur une proposition de Danton est créé ce qu'on appellera le tribunal révolutionnaire chargé de traquer les ennemis de la révolution en fait, et qui fera tomber beaucoup de têtes, et car à ce moment-là les Prusses ont enfoncé le front et Danton voit une situation très difficile s'aggraver et se dit que c'est peut-être une solution pour éviter de se faire tirer dans le dos par les ennemis de la Révolution. La situation interne et externe du pays est très très difficile. En Vendée, il y a des violentes insurrections que beaucoup ont prétendu comme étant des insurrections catholiques, ce qui est en fait totalement faux. C'est juste des objecteurs de conscience qui ne se sentaient pas vraiment concernés par le front français et ne voulaient pas aller s'y battre. Alors pour preuve en fait, on peut tout simplement se référer à ce qui s'est passé quelques années auparavant, puisqu'il y a eu la persécution d'énormément de prêtres, puisque je vous rappelle que l'État a décidé de saisir beaucoup de biens de l'Église, et les prêtres sont devenus des prêtres assermentés par l'État pour pouvoir renflouer la dette. Et à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle les prêtres réfractaires, et ceux-là étaient persécutés, battus, beaucoup ont été même tués. Et à ce moment-là, il n'y a eu aucune révolte en Vendée, personne n'a bougé, ne serait-ce que le petit doigt. Donc, ce qui prouve bien que s'ils ont réagi au moment où les guerres commençaient sur le front et qu'on les envoyait en tant que conscrits, ça ne leur plaisait pas, et c'est pour ça qu'ils ont réagi à ce moment-là. Alors en avril 1793 est créé aussi autre chose qui s'appelle le comité de salut public. C'est pour répondre de manière plus efficace à la crise et éviter la stagnation des prises de décision sur le front par exemple. Hein, c'est un peu dans la logique de celle de César et notamment ce qui se faisait dans l'Empire romain. Lorsqu'il y a une situation de crise et de guerre, on décide de nommer une personne pour protéger la nation et celle-ci a un pouvoir dictatorial et elle fait un peu ce qu'elle veut. Là, c'est quand même énormément différent, puisque dans la Révolution, le comité de salut public est composé de plusieurs personnes, et en plus, il doit être reconduit tous les mois par la Convention. La Convention décide si elle le laisse ou si elle le dissout. Voilà, donc il y a quand même un pouvoir démocratique plus fort que lorsque c'est un pouvoir dictatorial. Après, pour ce qui est des réformes qu'on va tenter d'instaurer Maximilien de Robespierre, il veut inscrire notamment dans cette nouvelle constitution une des lois, il y a plusieurs, il n'a pas spécialement d'idée au départ, mais il veut commencer à débattre de ça. Il veut instaurer des limites au droit de la propriété. Alors, il n'est pas collectiviste, hein, Robespierre, pas pour un sou. Il pense seulement que la propriété doit être équitablement répartie entre tous les êtres humains. Et bien entendu, il va se heurter violemment au désaccord des Girondins et d'une bonne partie des députés de la Plaine. Et il n'arrivera pas à faire ce qu'il veut, puisqu'il n'y a pas énormément de députés, même chez les Montagnards, qui sont d'accord avec lui sur ce point-là. Il va notamment s'exprimer en ces termes auprès des Girondins. Il y a dans votre déclaration des droits de l'homme un adjectif inédit. Car cette dernière, la Déclaration des droits de l'homme, disait que la propriété était inviolable et sacrée. Première fois que l'on utilisait un mot religieux, en fait, pour qualifier la propriété. Et Robespierre complète en disant « Si elle est sacrée pour vous, demandez donc à un négrier, puisque vous n'avez pas voulu abolir l'esclavage, demandez-lui quelle est sa propriété. Il vous désignera un bateau. Non, je me trompe, un cercueil flottant. Un cercueil flottant plein d'hommes et de femmes à la peau noire. Et il vous dira en toute conscience et appuyé par vous-même « Ceci est ma propriété. » Et elle est sacrée, alors que vous savez bien qu'il est impossible de posséder des êtres humains. Constatez donc qu'il y a bien une limite à la propriété. De même que la limite de la liberté est la liberté d'autrui, la limite de la propriété est la vie et la dignité d'autrui. Je demande donc que soient instaurées des limites à la propriété. Bien entendu, il sera alpagué et... Il y aura des vociférations dans tous les sens de la part des députés de Girondins et de la Plaine. Hein, une très grande partie des députés ne sont pas du tout d'accord avec lui. Barrère et les Girondins proposent immédiatement la peine de mort pour toute personne proposant une loi atteintant au droit de la propriété individuelle ou commerciale. Et comme quoi, on dit souvent que les Montagnards étaient des sanguinaires et c'était loin d'être les seuls. La terreur aurait pu très bien venir d'un autre camp, voyez-vous, hein, parce que là, il propose la peine de mort contre toute personne qui propose une loi atteintant au droit à la propriété. Les Girondins iront même jusqu'à changer la maxime de la République sur les récussons lors d'une fête qui est organisée en l'hommage d'un boutiquier assassiné un an auparavant. Et ils changeront la maxime de la République « Liberté, égalité, fraternité » par « Liberté, égalité, propriété ». Donc voilà, arrivé en mai de 1793, les Girondins appelleront à plusieurs reprises la province à l'insurrection contre Paris, parce que les Girondins sentent que les Montagnards sont vraiment très très influencés par les idées et les revendications des sans-culottes. Ils sentent qu'il peut y avoir un danger pour la propriété de pas mal d'entre eux. Et en plus, toute la députation de la région de Paris et de Paris est ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'extrême gauche, notamment Marat, Robespierre ou Danton, même si pour Danton c'est plus compliqué d'en être sûr, mais en tout cas les idées qu'il défend à ce moment-là sont très très à gauche. Le 8, un député girondin, Vergniaud, appelle carrément les habitants de la Gironde à se lever contre la Convention. Et il dit qu'il n'y a plus une minute à perdre. Isnard dira même à la tribune « Si la population de Paris se mêle du moindre attentat à la propriété, Paris sera détruit par les forces provinciales. » Robespierre, qui a compris que la tournure est en train de mal virer, il prend conscience que les événements sont en train d'échapper à tout le monde, en fait. Et le soir, il va à la tribune des Jacobins et il fait la même chose que tous les Girondins. Il le dit exactement en ces termes, il est clair que la situation se déroule désormais entre les sans-culottes et les culottes dorées, pardon. Il dit donc, j'appelle le peuple à l'insurrection. Ce qui débouche sur le 31 mai, la foule accompagnée d'Hébert et de pas mal de personnes, Marat, etc. Ils entourent la convention. Hébert, qui est d'ailleurs le propriétaire du journal Le Père Duchesne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et un journal qui lui rapportait pas mal d'argent, entre autres. Et ils se retrouvent donc tous autour de la convention et demandent l'exclusion de 32 députés girondins. Hébert, lui, demandera carrément qu'on les zigouille, qu'on les tue, qu'on les envoie à la guillotine. Mais Robespierre, Couthon, refuseront. Ils demandent que ces derniers soient juste renvoyés chez eux et par contre surveillés pour ne pas qu'ils puissent s'enfuir et aller répandre d'autres idées ou tenter des insurrections en province. Donc pas mal d'entre eux respecteront leurs paroles, hein, et resteront à Paris surveillés. Mais malheureusement pour Robespierre à ce moment-là, il y en a beaucoup qui finiront par s'enfuir et provoqueront des insurrections partout en province. Et voilà, voilà. Alors, on peut se dire, et ça peut être légitime, que si on demande, si le peuple intervient dans une assemblée comme celle-ci et demande de faire virer des députés, c'est antidémocratique, puisque c'est une partie du peuple parisien qui s'occupe de gérer les affaires de la France entière, et il y en a une atteinte au droit de la démocratie représentative, parce que démocratie, c'est encore un bien grand mot. On peut dire que c'est vrai, oui. Seulement, c'est justifié par certains historiens comme Lamartine ou d'autres personnes qui disent que si à ce moment-là il y avait eu encore une insurrection du peuple et que la province s'était soulevée contre Paris, les Prusses qui étaient en train d'avancer sur le front auraient profité encore plus de cette désorganisation et la France ne serait plus enfin, elle serait peut-être morte dans les mois qui auraient suivi. Alors il fallait prendre une décision pour pouvoir conserver un gouvernement stable. On justifie ou on justifie pas, mais en tout cas chacun se fait sa petite idée là-dessus. Dans certains cas, il est possible que ce soit justifié. Danton, qui siège au comité de salut public depuis quelques mois, et la situation extérieure et intérieure de la France ne fait qu'empirer, il a du mal un peu à gérer tout ça, il se sent de moins en moins capable. Lui qui s'est très très bien arrondi au passage, hein, qui a acheté des châteaux à droite à gauche, il s'est bien enrichi sur le dos de la Révolution. Le 10 juillet 1793, il décide de quitter le comité de salut public en prétextant qu'il veut un congé pour son remariage, puisqu'il était marié, sa femme est morte quelques mois auparavant, il se remarie. Il dit que la seule personne, à ce moment-là, il annonce que la seule personne qui est capable de lui succéder dignement, c'est Robespierre. Et quand il propose ça et qu'il dit ça, il le fait parce qu'il sait pertinemment que la situation est très très compliquée et il pense que Robespierre va tout simplement se casser la figure en fait. Mais à ce moment-là, eh ben, Robespierre refuse, il se dérobe. Alors dire pourquoi, hein, on peut essayer d'expliquer, c'est parce que déjà premièrement, Robespierre est malade. Alors on ne sait pas exactement, mais ce qui ressort le plus selon les historiens, c'est qu'apparemment il serait tuberculeux, il aurait la tuberculose et des grosses poussées de fièvre très très violentes. Il a également peur, hein, c'est une des autres raisons, il a peur de ne pas être forcément à la hauteur, il ne veut pas assumer ce rôle-là. Et en plus, quelques mois auparavant, à cause de sa maladie, juste le mois précédent, le 12 juin, à la tribune des Jacobins, il annonçait qu'il allait certainement démissionner, mais finalement, il ne le fera pas. Sa santé se dégrade vraiment beaucoup. Alors, le 27 juillet, il y a un autre congé, une autre personne qui quitte le comité de salut public. Et alors, à ce moment-là, les gens disent à Robespierre, mais alors, à ce moment-là, faut y aller. Et finalement, il décide d'accepter. Tout simplement pour une raison assez simple et qui lui a certainement permis d'opiner dans ce sens, c'est que quelques jours après qu'il ait refusé de rentrer au comité de salut public, précisément 3 jours, Marat se fait assassiner dans sa baignoire, poignardé par Charlotte Corday. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il y a un tableau très célèbre représentant cette scène. Donc Robespierre prend conscience que ça devient très très dangereux pour les révolutionnaires. Et lui, sachant, se doutant qu'il est un peu en fin de vie, se dit qu'il doit profiter du peu de temps qu'il lui reste à vivre pour essayer de faire avancer la révolution le plus possible. Alors, il va rentrer au comité de salut public et va pouvoir imposer, entre guillemets, certaines de ses décisions. Celle-ci, cette dernière, hein, toutes ces décisions seront remises en question tous les mois par la convention, car celle-ci pourra décider si ce comité de salut public est reconduit ou non. Mais il pourra tout de même infléchir complètement les décisions qui seront prises dans l'État. Il rejoint ainsi des personnalités de son bord politique, comme Couthon ou Saint-Just. Voilà, alors on va se passer un petit morceau là, parce que ça commence à faire un bon petit moment que je parle. Et nous allons passer un morceau de 36 Crazy Feast qui s'appelle The Back Harlow Road. C'est parti. We'll be right back. Bonsoir, vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts sur Radio Canu, 102.2 FM à Lyon. Et ce soir, nous parlons de la Révolution française, toujours, toujours, toujours et toujours, comme depuis deux émissions, trois émissions maintenant, en comptant celle-ci. Alors, j'en étais arrivé au moment où Robespierre entre au comité de salut public. Il va pouvoir donc infléchir la politique du gouvernement. Et lui qui vociférait et essayait de se faire entendre un peu dans son coin avec quelques soutiens, mais très peu, va enfin avoir un pouvoir et la possibilité d'agir sur certaines choses. Alors, les premières choses qu'il va faire en accédant à ce rôle au comité de salut public, hein, il n'est pas dictateur, il n'est pas tout seul au pouvoir, ils sont nombreux au comité de salut public, je crois qu'à ce moment-là, ils sont 12, quelques 12 ou 16, je ne sais plus exactement. Enfin bref, la première des réformes qu'il va réussir à faire passer, ce sera l'abolition des droits féodaux. Alors vous pouvez certainement croire que je dérape puisque c'est la nuit du 4 août, hein. Et non, car en fait, suite à la, il me semble que je l'ai déjà expliqué dans les deux émissions précédentes, la nuit du 4 août, c'est un simulacre puisque les châteaux brûlaient un peu partout en province. Donc on a décidé de faire une annonce en disant qu'on allait abolir les droits féodaux. Cependant, une fois que on écrit le texte de loi, des amendements sont ajoutés petit à petit, et une fois la loi est promulguée vachement plus tard, énormément plus tard, et on se retrouve avec une loi qui est complètement vidée de son essence. En fait, pour être exonéré de, d'impôts, de payer ses droits féodaux, il faut pouvoir rembourser ses droits féodaux au denier 30, on appelle ça. Ce qui veut dire que si un paysan veut être affranchi de ses droits féodaux, il doit venir et payer 30 années de droits féodaux, et à ce moment-là, hop, il n'en paye plus jusqu'à la fin de sa vie. Donc bien entendu, personne ne peut régler ça à ce moment-là, et Robespierre, lui, quand il arrive au comité de salut public, il le fait abolir définitivement et totalement. Alors, d'autres réformes qui sont nettement moins nobles hein, pour nous aujourd'hui, avec le regard qu'on peut avoir dans la société moderne, mais qui à l'époque vont infléchir et vont avoir des influences fortes sur les résultats politiques, ils vont décider la peine de mort contre les accapareurs de biens de première nécessité. Alors en fait, les sanctions pourraient être totalement différentes aujourd'hui, mais à l'époque, ça permet d'éviter la spéculation en fait, parce qu'il y a notamment des gens comme Necker qui accaparent les blés et font croire qu'il y a une pénurie, et finalement, et en fait, ils gardent tout ça bien au chaud, les prix grimpent parce qu'il y a une forte demande, mais qui ne trouve pas preneur, et au final, ils relâchent du jour au lendemain tout ce qu'ils avaient laissé de côté et les vendent au prix fort pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. Donc à l'époque, Robespierre rentre au comité de salut public et décide, c'est une sorte de rapport de force politique, hein. On décide de menacer de mort toutes les personnes qui vont tenter d'accaparer des biens de première nécessité comme le blé, etc., pour spéculer dessus, et donc il va y avoir plus de facilité et les prix vont un peu redescendre. Il y a une circulaire aussi qui va tourner pour subordonner, donc pour astreindre les généraux qui sont envoyés en campagne dans les guerres, pour éviter qu'ils se retournent comme ce qu'il s'est passé à plusieurs reprises avant, notamment Monsieur Dumouriez qui est passé du côté de l'ennemi, ou encore Lafayette qui n'est pas passé du côté de l'ennemi lui, mais qui a carrément abandonné l'armée française du jour au lendemain. Il décide donc, Robespierre, d'envoyer des commissaires pour surveiller l'action de ses généraux en campagne. Alors l'objectif, c'est pas d'avoir une influence sur les stratégies militaires, hein, mais c'est juste de surveiller que les personnes qui sont là ont une attitude correcte par rapport à la République. Alors on a le droit de penser c'est bien ou c'est pas bien, hein, mais en tout cas ça aura une influence. Il va également supprimer les fournisseurs militaires et décider de fournir l'armée française avec des fournitures militaires uniquement construites et fabriquées dans des usines nationales. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il va faire, il va nationaliser toute l'industrie militaire française. Alors forcément ça va soulever un tollé, hein, parce qu'il y a toutes les personnes qui se font de la gratte là-dessus, notamment Danton qui sera très très copain avec Dumouriez pendant une période, ne vont pas du tout apprécier ce genre de choses, parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'argent à se faire sur la totalité des fournitures militaires. Alors sur le front, et grâce à l'arrivée des commissaires qui sont chargés de surveiller un peu l'attitude des généraux, la situation s'améliore carrément, parce qu'on fait de plus en plus reculer les ennemis. Alors Danton, qui était parti en congé pendant une bonne période, finit par revenir au début du mois de septembre, et comme il voit que la situation n'est pas si pourrie pour Robespierre, eh ben il va tenter de le faire tomber. Eux qui pourtant dans la vie étaient plus ou moins amis, entre guillemets, hein. Pas vraiment amis, mais si, ils se côtoyaient beaucoup, notamment Robespierre connaissait beaucoup ses enfants à Danton, il les aimait beaucoup. Le 1er septembre, donc deux amiraux à Toulouse se retournent contre la France, ils étaient des amiraux français, ils se retournent contre leur propre pays et décident de laisser la flotte aux Anglais et leur permettre de remporter une victoire sur du côté de Toulouse. Alors Danton va décider d'accuser directement le comité de salut public de mollesse, hein, et du coup il va dire « l'heure est venue d'une troisième révolution ». Heureusement, et bien sûr les gens ne le suivront pas, hein, à part... Il y aura juste Hébert qui va le suivre un peu dans sa requête. Alors qu'un des alliés des sans-culottes, Chaumette, qui est aussi dans le même groupe politique que Hébert, lui dira aux gens de ne surtout pas s'en prendre au gouvernement, que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas la bonne solution. Danton tentera d'autres choses, hein, mais il dira également à ce jour-là que le tribunal révolutionnaire ne fait pas son travail comme il le devrait, et il demande une tête par jour. Ce sera en fait le début de ce qu'on appelle la Grande Terreur. Il déclare que la terreur est à l'ordre du jour. Hein. Alors cette citation, elle a été mise dans la bouche de plein de personnes. On ne sait pas vraiment qui l'a dit. Il y a un abbé qui l'aurait dit, Danton l'a dit, visiblement on l'a mis aussi dans cette citation dans la bouche de Saint-Just lorsqu'il était à la convention. Enfin, on ne sait pas qui a cité cette phrase en premier. La terreur donc va mettre les députés sous pression et Robespierre va finir par obtenir de faire mettre en vigueur le maximum, hein, c'est le plafonnement des prix, notamment sur les biens de première nécessité comme le pain, etc. Ainsi, en même temps, il va créer l'armée révolutionnaire. C'est une armée de 4000 hommes qui sera chargée de vérifier que le maximum, la loi du maximum, est bien appliquée, hein, dans tout Paris et à plein d'endroits dans la France également, que les plafonnements des prix sont respectés. Elle devra le surveiller, cette armée révolutionnaire. Alors Danton va essayer une autre méthode pour faire tomber Robespierre. Au mois d'octobre 1793, il essaye de faire passer le gouvernement qui est en place, hein, celui de Robespierre, comme un ami de l'Église, parce qu'il y a certaines personnes qui réclamaient la persécution des prêtres, mais Robespierre dit que c'est ridicule et qu'il ne veut absolument pas que ces choses se passent. Bien entendu, le peuple ne marche pas, hein, lorsque Danton demande une nouvelle insurrection pour renverser le gouvernement. Le peuple ne se fait pas avoir et ne bouge pas non plus. Le 5 décembre, Danton décide complètement de virer sa cutie. Lui qui réclamait une tête par jour quelques mois auparavant, le 5 décembre, il va dire « Je demande l'économie du sang des hommes ». Il demande aussi l'élargissement des suspects, c'est-à-dire qu'en fait, on va libérer environ 200 000 suspects qui étaient dans les prisons, hein, qui étaient peut-être pour certains d'entre eux, il faut se dire la vérité, des gens qui ont peut-être certainement été dénoncés de manière un peu hasardeuse, hein, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait très bien qu'il y a des gens qui étaient dénoncés de notamment cacher des juifs ou des choses comme ça par des voisins juste parce qu'ils ne les aimaient pas, hein. On sait très bien comment ça se passe quand il y a des dénonciations qui commencent à se mettre en place. Mais dans ces 200 000 personnes qui sont libérées, il y avait certainement des agents royalistes. Et une fois que ces personnes étaient libérées, bah, c'était un vrai danger pour la République, puisque ces gens-là avaient certainement pour seule idée de renverser le gouvernement en place. Alors Robespierre a réussi à faire à infléchir de pas mal de positions dans le gouvernement. Il a réussi à faire remonter la valeur de l'assignat, hein, qui avait chuté. L'assignat qui est le premier papier monnaie qui est créé, je vous rappelle. Il sent qu'on essaye de le saboter, parce que plusieurs fois à la convention, il entend dire des choses, il essaye de les reprendre et derrière on lui fait comprendre qu'il n'a pas son avis à donner. Et il est de plus en plus malade en plus. Il est obligé de s'absenter, notamment de la moitié du mois de février jusqu'au début du mois de mars. Moitié du mois de mars, pardon. Donc pendant un mois, il ne sera pas au comité de salut public, etc. En revenant, il doute. Il sent que beaucoup de ses anciens alliés, qu'il croyait probes, essayent de le faire chuter. Et il hésite à frapper les hébertistes et les dantonistes. Il a peur de glacer la révolution, comme dira Saint-Just. Il a peur que le peuple, voyant les gens se tuer entre eux dans les petits groupes qui normalement étaient censés être les amis du peuple, n'ait plus confiance en la révolution. Mais Robespierre, n'étant pas forcément pour au départ, va finir par accepter aussi sous l'influence de ses collègues au comité de salut public, et aussi parce qu'il finit par penser que c'est peut-être la meilleure décision. Et comme il a la réputation d'être incorruptible, il met totalement en fait ses affects de côté dans cette prise de décision. Et ça le ronge, hein, ça le ronge totalement. Ça, c'est ce que beaucoup d'historiens disent, que vraiment, il a été totalement abattu par le fait de faire ça. Mais finalement, il décide le 5 avril 1794 de faire exécuter les dantonistes, donc c'est-à-dire Danton, Camille Desmoulins, et ainsi que les hébertistes. Il sent que la fin est proche pour lui, hein. Il explique alors dans le fond de sa pensée, il décide de tout lâcher. Hein. Il se dit tant qu'à faire, hein, au point où j'en suis, il sent que c'est la fin. Et donc il arrive à la convention et un jour il explique son arrière-pensée en ces termes. Alors je vous le cite. Nous voulons une patrie qui procure du travail à tous les citoyens, ou les moyens de vivre à ceux qui sont hors d'état de travailler. Nous voulons une cité où les transactions seront la circulation de la richesse et non pour certains le moyen d'une opulence fondée sur la détresse des autres. Nous voulons une organisation humaine où les mauvaises passions seront enchaînées, l'égoïsme, la cupidité et la méchanceté. Nous voulons substituer la droiture aux bienséances, substituer le mépris du vice au dédain du malheur, substituer les braves gens à la bonne compagnie. Nous voulons une demeure des hommes où toutes les âmes s'agrandiront. Nous voulons accomplir les destins de l'humanité. Voilà ce qu'il dit. Il parle aussi dans ce discours-là de l'être suprême, parce que lui était très croyant. Alors là, moi, c'est la partie où je commence à un peu moins le suivre, hein, le fameux Robespierre. Mais en fait, il croit vraiment en un être suprême, mais il ne croit pas en l'Église. Alors, il décide même de créer une fête qu'il appellera la fête de l'être suprême, le 10 Pré-Réal, où il effectue cette fête au Champ de Mars, où il y a eu les massacres quelques années auparavant. Et ce jour-là, il est habillé aux couleurs de la République, bleu, blanc, rouge, hein, et défile sous l'ovation du peuple avec un bouquet de fleurs. Il est dévoré par sa fièvre. Hein. Les historiens, notamment Guillemin, racontent que les témoins qui étaient autour disent que un coup, il le voyait passer, certaines personnes l'ont vu passer, il était tout blanc, totalement pâle, et d'autres l'ont vu passer étant totalement rouge et en train de fondre. Hein, il était vraiment dévoré par sa fièvre. Il était vraiment sur la fin de sa vie, en fait. La tuberculose était vraiment en train de le ronger. Des tas de gens le haïssaient, tous les généraux qu'il avait fait rappeler, hein, notamment à ce moment-là, parce qu'il y avait tous les généraux qui ont été envoyés en campagne, et comme ils se conduisaient pour certains d'entre eux comme des sanguinaires, comme notamment Fouché, hein, pour ceux qui sont, nous ici à Lyon, on connaît pas mal, c'est lui qui a fait fusiller énormément de gens dans la rue. Tallien, Carrier ou Barat, hein, Robespierre voulait les a fait rappeler parce qu'ils se conduisaient comme des sanguinaires. Il voulait également aussi, Robespierre, arrêter la guerre, parce qu'il n'y avait plus de légions ou de militaires étrangers sur le territoire français. Donc il se disait, lui, que c'était plus la peine de faire la guerre, qu'on était en sécurité désormais. Carnot lui en a énormément voulu pour ça aussi, parce qu'il disait que c'était le moment d'en profiter si la guerre était en train d'être gagnée. Le 13 juillet, Carnot envoie à Pichegru pour son entrée en Belgique ce mot à ce général militaire: vous allez rentrer en Belgique, pillez et prenez tout, il faut vider le pays. Alors Robespierre, lui, pense que c'est déshonorant pour la République, et à force de trop ouvrir sa bouche, et ben il va finir par provoquer la haine envers lui, et on va tout faire pour essayer de le faire tomber. Alors lui qui avait réussi un petit peu à arranger la situation, on a envie de le faire tomber, mais le gros souci dans tout ça, c'est comme son gouvernement et ses mesures, les mesures qui ont été mises en place, sont plutôt favorables aux masses populaires, et bien elles l'adorent, elles le défendent, et les personnes qui ont envie de destituer Robespierre savent pertinemment que s'ils s'attaquent à lui de manière trop frontale, le peuple ne va pas accepter et il va y avoir une nouvelle insurrection pour le défendre. Alors on va commencer à faire tourner des rumeurs autour de lui. Robespierre quitte à plusieurs reprises encore le comité de salut public, hein, parce qu'il est complètement malade et il ne peut plus suivre le rythme. Et durant cette période, et ben, notamment pendant la période de Pré-Réal, ce qu'on appelle les fameuses lois de Pré-Réal, durant cette période, alors disons pas que Robespierre n'y est absolument pour rien, mais en tout cas son rôle est totalement trop mis en avant alors que lui n'avait plus vraiment de place dans ce comité de salut public puisqu'il n'y était plus. Durant cette période où il reste chez lui, où il prend des vacances, hein, puisqu'il est totalement en déliquescence, les têtes vont encore plus tomber, elles vont s'accumuler. Fouquier-Tinville, qui est donc le président du tribunal révolutionnaire, va se venger ainsi de Robespierre, hein, puisque plusieurs fois, Robespierre a tenté de le faire virer de ce rôle de directeur du comité de salut public, du tribunal révolutionnaire, pardon. Donc, en un mois, le même nombre ça c'est précisément en 40 jours, le même nombre de têtes vont tomber qu'en 6 mois. Alors, les rumeurs vont aller bon train, on accuse Robespierre d'être devenu complètement fou. Une main levée contre lui, dans les rumeurs qui tournaient, ferait tomber 50 têtes, hein, parce que notamment, on avait attrapé une femme qui avait des couteaux sur elle, elle est attrapée par la garde nationale, et elle dit oui, je voulais tuer Robespierre, etc. Et derrière, hop, on fait guillotiner 50 personnes à cause de cette histoire. On va faire passer la guillotine même Chaumette, hein, qui était pourtant quelqu'un qui était souvent d'accord avec Robespierre, ou d'autres personnes, sous l'inculpation d'athéisme. Alors que tout le monde sait très bien que même si Robespierre était croyant, il n'a jamais été hostile aux autres conceptions métaphysiques que pouvaient avoir les autres personnes. Il n'a jamais été hostile aux personnes qui étaient athées. Alors le 21 juillet, il y aura une création d'une nouvelle loi qui s'appellera le maximum des salaires. Ce qui crée en fait un abaissement des salaires. Les salaires vont baisser à cause de ça, puisque ça veut dire maximum des salaires, ça veut dire plafonnement des salaires. Certaines personnes ne peuvent pas gagner tant qu'une certaine somme. Donc, notamment dans l'industrie de l'armement, le peuple se sent totalement trahi parce que ça entraîne des baisses de salaire de 30 à 50%, ce qui est totalement énorme. Alors à ce moment-là, tout le monde croit en bonne foi que Robespierre est encore à la tête du pays, que c'est encore lui qui dirige. Malheureusement, lui, il est tout simplement en train de souffrir le martyr. Et le peuple, à ce moment-là, il se sent complètement trahi par lui. Alors Robespierre revient à la Convention le 26 juillet et il dit ceci: « Quand la République tombe entre certaines mains, ce sont ces mains-là qui font la contre-révolution. Que voulez-vous que nous fassions quand le responsable des finances fomente l'agiotage ?» Alors, fomente l'agiotage, c'est la spéculation sur l'argent. Favorise le riche et désespère le pauvre. J'en ai assez de vivre dans un monde où l'honnêteté est toujours victime de l'intrigue et où la justice est un mensonge. Alors, en entendant tout ça, il y a certaines personnes qui commencent à se dire « Oula, il est encore dans l'idée qu'il y a des traîtres ici. » Et pour un peu, il connaît même les noms. On lui demande de donner des noms. Robespierre ne donne pas de noms. Et à ce moment-là, il y en a énormément qui vont, comme on pourrait le dire vulgairement, se chier dessus. Il y a certaines personnes qui vont avoir totalement peur et qui se disent que peut-être sur la liste que Robespierre se fait dans un petit coin de sa tête des personnes qui l'ont trahi, il y en a qui peuvent être dedans. Alors on décide de monter un coup contre lui pour le renverser pour de bon cette fois-ci. On se dit que même s'il est encore un petit peu populaire, il est possible que sa popularité ait largement assez baissé pour qu'on puisse le faire tomber sans soulever d'insurrection. Le lendemain, Robespierre, qui est donc de retour depuis deux jours à la tribune de la Convention, dans la Convention, le lendemain, Saint-Just fait un discours à la tribune. Il est bousculé par Tallien. Il s'accroche donc, il s'accroche pour ne pas tomber, Saint-Just. Et à ce moment-là, Robespierre voit que la situation est en train de déraper totalement. Il descend de la tribune, vers Tallien pour essayer d'aider Louis-Antoine de Saint-Just. Malheureusement, Tallien a prévu son coup, il sort de sa poche un grand couteau et dit « Si vous ne votez pas l'arrestation du dictateur, je le tue devant vous. » Alors finalement, Robespierre est arrêté, toute la convention est d'accord pour, hein, et opine dans ce sens, en criant, en vociférant contre lui et ses quelques camarades, hein, Couthon et son petit frère, notamment Augustin de Robespierre. Il est donc arrêté par les gendarmes. Henriot, qui est de la garde nationale, va se débrouiller, qui est très proche de lui, va se débrouiller pour le faire libérer. Robespierre l'emmène à l'hôtel de ville. Alors à ce moment-là, ils essayent de monter un coup pour que le peuple vienne les aider, hein, pour qu'ils viennent soutenir Robespierre et pour préserver et remettre en place ses réformes. Mais Robespierre décide de refuser dans un premier temps. Il finit par accepter qu'on l'emmène à l'hôtel de ville. Non, il y est déjà, pardon. Donc il accepte. Mais à ce moment-là, on attend que certaines personnes réagissent, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui réagissent, surtout les clubs de Jacobins qu'il y a. Je crois qu'il y en a à peine le quart qui répondent favorablement. Dans la nuit, on décide, comme il n'y a pas de réaction, la garde militaire finit par partir, Robespierre laisse un peu tomber, les gens qui le protégeaient s'en vont pour la plupart. Il reste dans l'hôtel de ville. Et à ce moment-là, on envoie les gendarmes l'arrêter. Alors, encore un des éléments compliqués de la Révolution et de l'histoire qui est toujours très capricieuse, hein, qui est racontée différemment par certaines personnes. Certains diront, selon les récits, que Robespierre tente de mettre fin à ses jours à ce moment-là, quand il voit débarquer les gendarmes, mais qu'il est retenu à la dernière minute, donc il se tire une balle dans la mâchoire, ce qui va lui exploser la mâchoire, il va saigner, il aura un gros bandage à cause de ça. Une autre version dit que c'est lui qui a voulu tirer sur les gendarmes, mais qu'on l'en a empêché, donc il s'est tiré dessus. Encore une troisième version dit qu'il avait une arme à la main et à ce moment-là, on l'a fait tomber pour pouvoir l'arrêter et qu'en tombant, il s'est tiré dessus involontairement. Et puis, il y a bien sûr une dernière version qui dit que c'est le gendarme qui lui a volontairement tiré dessus avec son fusil. Alors, impossible de savoir la vérité, hein, bien entendu, ou alors peut-être qu'on la sait, mais en tout cas, moi, je ne la sais pas. Si vous la savez, n'hésitez pas, hein, si vous avez des preuves. Toujours est-il qu'à ce moment-là, il a la mâchoire totalement éclatée et en sang. Il va passer la nuit en prison. Ce sera ce qu'on appelle les 106 exécutions, hein, où il y a beaucoup de gens qui vont passer à la guillotine pour symboliser la fin de la Révolution, hein. ces personnes-là d'ailleurs qui atteindront à la vie de Robespierre et au gouvernement qui est en place à ce moment-là, on les appellera les Thermidoriens parce que ça se passe pendant le mois de Thermidor. Et donc il y aura ces 106 exécutions et Robespierre lui sera guillotiné le lendemain après toutes les exécutions au préalable des autres personnes. Il sera guillotiné en dernier, amené avec son gros bandage sur la figure qui lui sera retiré juste avant qu'il soit décapité bien entendu. Et au moment où on lui enlèvera, il va pousser un gros cri de douleur parce qu'en fait le bandage tenait sa mâchoire, mais il a la mâchoire complètement éclatée, il a un gros trou dans la tête en fait, et il y a du sang partout, c'est dégueulasse, je sais, excusez-moi, mais c'est la réalité des faits à ce moment-là. Et certaines personnes qui seront des pourfendeurs de la philosophie politique de Robespierre disent que le cri qu'il a lâché à ce moment-là, juste avant d'être décapité, quand on lui a enlevé le bandage, c'était la manifestation du cri du malin. C'était le diable. Voilà quoi. La mentalité de certaines personnes. Alors, le coup d'État est fait. Les Thermidoriens ont pris le pouvoir. La bourgeoisie reprend le pouvoir. Monsieur Boissy monte à la tribune et décide de rétablir le cens, donc il n'y a plus de suffrage universel. Il faut à nouveau payer le cens pour avoir le droit de voter. Et il ajoutera un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre social des choses. Voilà comment se termine, selon moi, la Révolution française. Pour une partie des historiens, elle continue encore pendant quelques années derrière. Cependant, ce qui va se poursuivre derrière, ce sera des petites réformettes et il n'y aura pas vraiment de grosses réformes pour les petites gens et ça va tout aller dans le mauvais sens. Et ensuite, vous savez tous très bien ce qui va se passer derrière, il y aura le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Voilà, on va se mettre un petit morceau et puis après on arrivera au terme de l'émission et de la Révolution française. Alors nous allons écouter, qu'est-ce qu'on va écouter? On a le choix entre deux morceaux là. Alors on va écouter un morceau de TM Sleep, qui est un groupe de rock alternatif, notamment composé du chanteur de Deftones, le groupe de néo-metal américain. Alors en avant.
I face like
Voilà, vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts. C'était Ever, le morceau du groupe Theme Sleep. Alors nous arrivons au terme de cette émission où nous avons parlé de la Révolution française pour cette troisième partie. Nous sommes arrivés au bout, Robespierre est tombé et c'est fini pour la Grande Révolution. Alors, pour ce qui concerne l'émission, je vous rappelle qu'il y a la boîte mail lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, qu'il y a le blog sur le site de Radio Canu où vous pouvez retrouver ainsi tous les podcasts de l'émission sur tous les sujets qui ont été abordés, l'autodéfense intellectuelle, la Révolution française maintenant, les médias, la colonisation et certainement d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite. Il y a la page Facebook que vous pouvez aimer si vous voulez, si vous voulez pouvoir suivre le fil de l'actualité de l'émission, les thèmes qui seront abordés, les vidéos qui sont transmises, etc., etc. Et je vous rappelle qu'il y a donc la campagne d'instinct animal, ça n'a aucun sens ce que je dis. La campagne de dons de soutien à Radio Canu. Envoyez vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Si vous voulez soutenir, vous n'êtes pas obligé, mais ça ferait plaisir quand même, ce serait sympathique. Au passage, on fait passer un message de soutien à toutes les personnes qui connaissaient Rémi Fraisse. Et voilà, on dit qu'on pense très fort à eux et évitons que ça arrive à nouveau, ce genre de truc. Et puis voilà, et ben je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne nuit. Si vous travaillez demain, bon courage pour demain. Si vous ne travaillez pas, bon courage quand même. Et je vous dis à tous amour et révolution et à la semaine prochaine. Alors le thème que nous allons aborder la semaine prochaine n'est pas encore connu. On va y réfléchir dans la semaine. Pour tous ceux qui voudraient savoir avant l'émission, vous le saurez sur la page Facebook de l'émission. Amour et révolution, à la prochaine, bonne nuit, bye bye, bonne nuit, tout ça, tout ça, tout ça.